Vous écoutez France Culture.
Bonjour Adèle et bienvenue à tous dans Grand Amphi. Grand Amphi, la série estudiantine de Martin Kénéen et Julie Béressy. Dans la Hotte des sciences sociales, épisode 3. Les chercheurs et chercheuses de nos universités trouvent de tout dans les cadeaux de Noël. L'odeur de l'argent, le goût du sang, mais aussi la marque du genre. Bien que filles et garçons reçoivent également, je l'espère, des paquets le soir de Noël, ce qu'ils contiennent est loin d'être indifférent, comme en témoignent les recherches menées à leur façon singulière par nos invités. Anne Monjarret, bonjour.
Bonjour.
Martine Perrault, bonjour.
Bonjour.
Et Mona Zegaï, bonjour.
Bonjour.
Mona Zegaï, d'après vos enquêtes menées notamment dans les catalogues, mais aussi infiltrées dans les magasins de jouets, alors que l'égalité homme-femme progressait, pensait-on, au cours du XXe siècle, eh bien, la différenciation entre les sexes s'est accrue dans les cadeaux de Noël.
Effectivement, quand on regarde les catalogues de jouets des années 70 ou 80, parfois on est étonné de voir qu'on peut voir par exemple un petit garçon en train de faire le ménage aux côtés d'une petite fille. Il y a marqué dans un catalogue Leclerc 88 « Nettoyer à deux, c'est mieux » ou « Tout faire à deux, c'est mieux ». Et quand on consulte les catalogues de jouets à partir des années 90 et 2000, finalement ces images un petit peu atypiques, elles disparaissent. On ne les retrouve plus et au contraire, on trouve une hyper-segmentation de genre dans les catalogues de jouets. Donc des rubriques garçons et filles qui deviennent très majoritaires à partir des années 90. Alors qu'avant les années 90, ça pouvait exister, ces rubriques-là, mais en général, on trouvait des rubriques par type de jouet. Donc, par exemple, le type peluche ou le type véhicule radiocommandé, par exemple, qu'on peut trouver aujourd'hui, etc. Et aujourd'hui, voilà, on trouve vraiment des jouets pour garçons, jouets pour filles. La couleur aussi, qui apparaît notamment dans les années 50, de plus en plus, elle devient...
La couleur dans les pages des catalogues, donc.
Exactement, les arrière-plans des pages des catalogues, les couleurs bleues et roses, qui deviennent très, très... mobilisés à partir des années 90 et 2000, donc du rose pour les filles, du bleu pour les garçons, ce qui fait que les enfants, avant même de savoir lire, peuvent distinguer déjà quelles sont les pages pour eux ou pas. Et là, c'est une manière d'assigner aussi le genre. Et effectivement, quand on regarde les anciens catalogues de jouets, on trouvait beaucoup moins tout ça. Il y avait des dessins qui représentaient des enfants, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui avec les photographies. Il n'y avait pas de couleurs, ou quand il y avait des couleurs au départ dans les années 60-70, on utilisait une large gamme de couleurs pour tout le monde. Il n'y avait pas du bleu pour les filles et du bleu pour les garçons, pardon, et puis du rose pour les filles, mais toutes les couleurs pour tout le monde. C'était indépendamment du sexe.
Mais alors précisément, Mona Zegaï, quelles explications avez-vous trouvées à ce phénomène? Est-ce que c'est une amnésie au sujet des combats féministes menés dans les années 50, 60, 70?
Je pense que ça peut s'expliquer par plusieurs éléments. D'une part, le marché du jouet qui est devenu très important aussi, très massif au début des années 1980 puis 90. Le marketing aussi qui a changé d'orientation, qui segmente maintenant beaucoup en fonction de l'âge, puis en fonction du sexe aussi. Les enseignes qui se sont rendues compte que ça fonctionnait de segmenter à partir de la catégorie sexe. Et puis peut-être effectivement un backlash féministe qui fait qu'il y a eu des avancées féministes dans les années 60 puis 70. Et des remises en question, un retour de bâton par la suite qui fait que ça a pu être possible aussi dans le domaine du commerce et donc de la société de manière générale de proposer ces catégories-là. Voilà.
Martine Perrault, votre histoire des cadeaux de Noël croise également l'histoire du genre. Si on remonte avec vous dans le passé, peut-être au-delà du XXe siècle, quelles découvertes marquantes avez-vous faites au sujet de la sexuation des objets offerts aux enfants?
Ah ben, écoutez, moi j'ai parlé d'un conservatoire des rôles sexués. Je ne sais pas si Mona serait d'accord avec cette expression. C'est au 19e, il n'y a pas d'ambiguïté. On est garçon, on est fille. Les catalogues de grands magasins ne sont évidemment pas ni roses ni bleus. Ils sont noirs et blancs, mais il y a les pages de poupées. Alors c'est vrai que c'est plutôt par objet. Mais enfin, c'est très net quand on voit les uniformes. On voit des petits garçons en uniforme militaire et puis les petites filles jouent à la poupée. Moi, ce qui m'a frappée en regardant également des magazines féminins depuis leur création, comme Elle et Marie-Claire, c'est effectivement les années 60-70, où il y a un effet, plutôt 70, hein, un effet mai 68. Les années 50, le lendemain de la guerre, je ne l'ai pas vraiment vu. Mais
c'est-à-dire cet effet, vous avez vu des cocktails Molotov pour garçons et filles?
J'ai vu, enfin, je veux dire, une petite tendance un peu féministe, et dans ces magazines qui se voulaient un peu féministes, c'est pas du tout évident. Pour les jouets, peut-être un petit peu, mais alors pour le couple, homme et femme, pas du tout. Là, la femme, elle est renvoyée à son rôle de mère de famille ou d'objet de désir avec des choses pour sa coquetterie qu'on lui offre. Mais les années 50 sont quand même pas du tout mixtes.
Hein. Anne Monjarret ?
Alors, pas sur les cadeaux directement, mais sur la question de genre.
Que vous avez creusé notamment avec une étude sur le bleu de travail.
Oui, exactement. Mais là, en l'occurrence, c'est le rôle des femmes. Parce qu'on parle de féminisme et on parle de l'évolution, finalement, dans les familles. Mais on pourrait se poser la question, qui achète les cadeaux ? Qui s'occupe de faire le lien dans la famille ? C'est les femmes. C'est elles qui se préoccupent de ces achats. Et donc, c'est intéressant aussi de voir le rôle qu'elles ont dans la reproduction ou pas, justement, de ces modèles. Et voilà, j'avais envie un peu de rappeler ça. Parce que certes, il y a les objets, mais il y a les acteurs qui font qu'on en vient justement à reproduire ou pas. Et ça pose la question aussi de la scène sociale aujourd'hui et de ce qu'on fait des objets dans notre société.
Mona Zegaï, vous avez enquêté en particulier sur cet aspect, c'est-à-dire le lectorat qui est celui des catalogues de jouets ?
Oui, alors les catalogues de jouets, ils sont lus à la fois par les enfants, par les parents, par, de manière générale, tous ceux qui veulent faire des cadeaux aux enfants. Et effectivement, ce sont les parents et essentiellement les mères qui se déplacent en magasin de jouets. Je l'ai bien observé, hein. Il y a très très peu d'enfants, en particulier lors de la période de Noël où on est censé offrir des cadeaux
secrets, mystères,
un minimum secret, voilà. Ouais. Par contre, les cadeaux se font essentiellement sur prescription des enfants, notamment à Noël. Donc les parents ou les mères viennent, certes, mais avec des listes de Noël qui sont diligentées par les enfants. Donc des photographies entourées dans les catalogues de jouets, des listes écrites, etc. Et donc du coup, il y a le groupe de pères, hein, PAIRS, des amis, qui jouent un rôle important parce que les amis, les enfants observent à l'école aussi les jouets que les autres possèdent et après souhaitent le même jouet avec les publicités télévisées aussi qui vont dans ce sens-là, etc. Donc effectivement, les catalogues de jouets ont un rôle important. Les mères et les parents, de manière générale, ont un rôle important, mais il ne faut pas oublier non plus le commerce du jouet qui oriente très largement aussi ce que les enfants peuvent ou peuvent ne pas vouloir. Et moi, dans le magasin où j'ai travaillé pendant 2 mois en tant que vendeuse à couvert, sans préciser que je faisais une thèse, il y avait beaucoup de grand-mères aussi qui venaient, mais toujours sur prescription des enfants et qui d'ailleurs se heurtaient parfois au choix des enfants qu'elles ne souhaitaient pas. Quand une grand-mère arrive dans le magasin, par exemple, avec son petit-fils qui lui a demandé une Kalachnikov et qu'elle se rend compte de la taille de l'arme qui doit faire peut-être 60 cm de longueur, effectivement, il y a un choc. Et pourtant, souvent, les parents ou les grands-parents, notamment, ont envie de faire plaisir à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Et généralement, finissent par acheter ce qu'ils demandent.
Martine Perrault ?
Oui, non, pour compléter, moi, je me suis amusée à regarder les listes pré-écrites sur Internet que les enfants remplissent. Ils sont devenus, alors là, ça dépend de l'âge, évidemment, des petits gestionnaires. C'est tout juste s'ils ne vous envoient pas le code barre pour vous dire, voilà, je veux ça avec les prix. Et ils font une étude de marché. Et dans ces listes, enfin, dans ces questionnaires préparés par les sites, il y a effectivement, es-tu une fille, es-tu un garçon ? Ça commence comme ça, en général, et puis l'âge.
Depuis toujours, les cadeaux offerts en fin ou en début d'année contribuent à façonner la famille, mais aussi l'identité sexuelle des enfants. Mais comment les présents et le discours qu'ils véhiculent évoluent-ils actuellement ? Eh bien, vous le saurez en écoutant demain la suite de Grand Amphi. Prise de son et mixage, Olivier Dupré, attaché d'émission, Anne de Biran.